Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Heures sonne sur Radio Kapi. Bonsoir et bienvenue dans votre grande édition du soir. Je suis Gisèle Cage pour vous accompagner à travers une actualité vérifiée, précise et toujours au service de la paix. Voici les principales informations à retenir. Salaire en retard. Le gouvernement promet un déblocage en 72 heures. Après une réunion de conjoncture économique, le ministre des Finances garantit la disponibilité des ressources pour finaliser la paye de janvier. Peine de mort pour le bourgmestre des Panou et sept co-accusés. Condamnation prononcée à Idiofa après les affrontements meurtriers du 3 février ayant coûté la vie à 4 personnes dont 2 policiers. Non-violence et démocratie, la vision de l'abbé José Mpundu, invité de Radio Kapi, il encourage la RDC à rejeter les antivaleurs et reconstruire l'unité nationale. Restez avec nous pour suivre cet échange fort, profond, où il revient sur l'essence de la non-violence, le rôle du citoyen et les valeurs essentielles pour bâtir la démocratie en RDC. À ne surtout pas manquer. Le retard salarial s'invite au cœur de l'actualité économique en RDC. Le gouvernement tente de rassurer. Dans 72 heures, toutes les opérations de paye des salaires de janvier seront clôturées. C'est ce qu'a affirmé ce lundi le ministre des Finances de Doudou Fouamba à l'issue de la réunion extraordinaire de conjoncture économique présidée par la première ministre Judith Suminwa. Autour de la table, le ministre du Budget, de Mines ainsi que le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Et à la sortie des échanges, le ministre des Finances se veut clair. La situation économique est sous contrôle et le gouvernement dispose des ressources nécessaires pour honorer ses engagements. S'agissant du retard observé, Doudou Fouamba évoque des ajustements techniques habituels en début d'année, accentués par des contraintes sécuritaires qui imposent un paiement progressif. On écoute les explications du ministre des Finances dans cet extrait proposé par Alain Hirung.
Pour les mois de janvier, contrairement aux bruits qui sont en train de circuler, le gouvernement a payé avant le 28 janvier 2026 les rémunérations des personnels sensibles de l'État, donc les personnels relevant des services à mise à jour mensuels. C'est notamment les éléments de nos forces armées, les éléments de la police nationale congolaise, les membres de la DINACOPE, donc les enseignants pour la ville province de Kinshasa. Ceux-là ont touché leur rémunération avant le 28 du mois de janvier. Pour les autres catégories, compte tenu des glissements, les pays ont continué au-delà de la date du 28 avec les médecins qui ont été payés la semaine passée. Aujourd'hui, je crois que la paye va continuer encore. Je crois que dans les 72 heures, nous allons clôturer les opérations de la paye du mois passé. Ces ajustements sont notamment liés, comme je l'ai dit, au rythme que nous effectuons ces opérations compte tenu des mises à jour. Donc, les populations congolaises et les fonctionnaires doivent être rassurés. Il n'y a aucun problème. Le gouvernement va tenir compte de cet état des choses dans l'évolution de la suite des opérations.
Nord-Kivu, les téléphones reprennent vie après des semaines de silence. Après près d'un mois d'interruption totale, les réseaux mobiles ont été rétablis dans la nuit de lundi à mardi dans plusieurs territoires autour de Goma. Vodacom, Orange, Airtel, les abonnés de ces trois principaux opérateurs peuvent à nouveau communiquer à Nyiragongo, Rutshuru, Lubero, Masisi, Walikale et même jusque dans Calais au sud Kivu. Un retour progressif de services qui apporte un véritable soulagement à des millions d'usagers coupés du monde depuis des semaines. Bernard Nyangui fait le point sur cette reprise de communication.
Des habitants joints dans ces zones actuellement sous occupation rebelle affirment avoir capté à nouveau le signal depuis 23 heures lundi. Ils peuvent désormais passer des appels, envoyer des messages et accéder à Internet alors que tous ces services étaient hors d'usage durant près d'un mois. Pendant cette période, pour communiquer avec leur famille, certains habitants devaient parcourir plusieurs kilomètres afin d'atteindre des points où un minimum de réseau restait accessible. La coordination des activités économiques, les opérations de conservation notamment pour le cas du parc national de Virunga ainsi que l'accès à l'information étaient fortement paralysés. Les acteurs humanitaires et sanitaires ont également m'a rencontré d'importantes difficultés pour assurer le suivi de leurs interventions et déclencher les alertes rapides en cas d'urgence. Le rétablissement du réseau constitue donc un véritable soulagement. Il permet la reprise des échanges améliorer la circulation de l'information et faciliter même la paix des enseignants et du personnel soignant en zone rurale via les services de Mobile Money. Jusqu'à présent, aucune communication officielle n'a été faite sur les causes ou l'origine exacte de cette coupure, regrettent toutes nos sources.
Sud Kivu, une route stratégique au bord de l'asphyxie. Les échanges commerciaux sont quasiment paralysés sur la route nationale numéro 5, la RN5, dont l'axe Fizi, en cause l'insécurité persistante liée aux affrontements armés, mais aussi le délabrement avancé de cette artère pourtant vitale. La RN5 ne relie pas seulement le Sud Kivu, les Tanganyika et le Maniema. Elle constitue aussi un corridor majeur vers 4 pays voisins, un axe économique crucial aujourd'hui presque impraticable. Face à cette situation alarmante, l'administrateur du territoire de Fizi, Sami Kalonji Badibanga, relance son plaidoyer auprès des autorités provinciales et nationales. Il dénonce l'abandon de cette route et réclame une intervention urgente. On écoute Sami Kalonji Badibanga au micro de Jean Kassami.
La RN5 constitue pour nous Fizi un fleuron économique parce que non seulement que cette route d'intérêt national est bénéfique pour nous, les habitants du territoire de Fizi, mais c'est une route qui ouvre aussi la voie vers Kalemi, le territoire de Kabambare, vers le village minier de Salamabila. Et c'est la route aussi qui ouvre la voie vers le pays limitrophe, notamment la Zambie, la Tanzanie, le Burundi et la Mozambique. Donc, cette route d'intérêt national est pour nous un poumon économique. Voilà que nous sommes en train de déplorer parce que pendant cette période de guerre, les activités sur ce tronçon n'existent plus. Ce tronçon est abandonné à son triste sort. Et d'ailleurs, nous déplorons son délabrement très avancé. Nous avons fait plusieurs plaidoyers pour que cette route soit réhabilitée. Nous avons eu aussi le courage d'écrire au ministre national des infrastructures pour qu'il puisse aussi apporter son attention particulière sur ce tronçon.
Au Kasaï central, le rail cède une nouvelle fois. La voie ferrée est de nouveau coupée par un ravin à Benaleka, dans le territoire de Demba. Une rupture qui intervient alors que l'office de voirie et drainage avait lancé il y a un mois des travaux de réhabilitation et ont permis une reprise provisoire du trafic. Mais ces travaux n'étant pas achevés, les pluies récentes ont emporté les remblais posés par l'office de voirie et drainage OVD, rendant la ligne totalement impraticable. Conséquence directe, le trafic ferroviaire entre le Kasaï et le Kasaï central est à l'arrêt. Le train ne pouvant plus circuler sur ces tronçons essentiels. Place maintenant au reportage d'André Katende Ngalamulume.
Selon Gaston Chipumbu, coordinateur de la nouvelle société civile congolaise dans la commune rurale de Benaleka, la situation s'est aggravée vendredi dernier après une pluie qui a duré près de 5 heures. Il redoute une crise des produits alimentaires de première nécessité et appelle les autorités provinciales et nationales à intervenir rapidement pour remblayer les ravins et rétablir le trafic.
Nous sommes encore plongés dans une situation difficile. C'est le chemin de fer qui ravitaille les gens qui sont à Kana avec du maïs, ainsi de suite. Cela va aussi provoquer la montée en prix d'arrêt alimentaire. Donc nous demandons notre gouvernement de s'impliquer. Non seulement le gouvernement provincial, même le gouvernement central.
Des sources au sein de la Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC, région Nord, indiquent que l'entreprise est déjà mobilisée pour résoudre les problèmes et permettre la reprise du trafic. Kananga, André Katende Ngalamulume, Radio Kapi.
Dans l'actualité judiciaire au Kwilu, 8 personnes, dont le bourgmestre de la commune urbano-rurale des Panou, ont été condamnées à la peine de mort ce lundi 16 février par le tribunal militaire de garnison des Kikwit. Cette sentence a été prononcée à l'issue d'audiences foraines en flagrance tenues à Idiofa après les affrontements meurtriers survenus dans la région. Les faits remontent au 3 février 2026 vers 5 heures du matin lorsque la police avait interpellé deux présumés bandits à Panou. Leur groupe était intervenu pour les soustraire aux forces de l'ordre, déclenchant de violents heurts. 4 personnes, dont 2 policiers, avaient alors perdu la vie. On écoute le prononcé du verdict dans cet extrait proposé par Jean-Claude Tangamou de la radio-télévision Bandundu Développement.
Condamne les prévenus. 1. Mabenga Djibril à la peine de mort. 2. Bibo Nixon à la peine de mort. 3. Bibo Dosa alias Ebene à la peine de mort. Ikei Le Petit à la peine de mort. Chilolo Alfred à la peine de mort. Monzalu Mbombo alias Grand Pays, à la peine de mort. Et enfin, huitième, Zeno Moufele Mbassi, à la peine de mort. On ose l'acquittement pour le prévenu suivant, Kibala Shadrach et Mawete Joël, pour tout le condamné au paiement de 100 000 francs congolais de frais d'assurance payable dans un délai de 8 jours. Quant à l'action civile, le tribunal militaire de garnison, après délibération et vote au scrutin secret, le tribunal d'assurance se déclare recevable et fondé les actions des parties civiles.
Congo central, la course à l'uniforme est lancée. Les jeunes qui souhaitent intégrer les forces armées de la RDC n'ont que 3 jours pour s'inscrire dans les centres d'enrôlement ouverts à travers la province. L'appel est lancé par le colonel Milingo Chimakanda du Ciel, directeur du recrutement à la 12e région militaire. Il précise que le nouveau candidat viendront renforcer le 725 recrues déjà regroupés au centre de formation de Tambangadio, dans les territoires de Songololo, en attente de leur transfert vers le centre d'instruction de Moura, près de Likasi, dans le Haut-Katanga. Le colonel insiste, seul le jeune mentalement, physiquement et moralement apte pourront rejoindre les FRDC, une armée qu'il veut moderne, professionnelle et engagée au service du pays. On écoute dans ses propos recueillis par Nana Plus Riche Mambou.
Au niveau de Tombangadio, nous avons 725 recrues qui sont regroupées. Nous sommes à pied d'œuvre pour l'évacuation. On attend juste le go qui sera donné par la hiérarchie pour évacuer les recrues vers les centres de Moura qui se trouvent dans le territoire de Likasi, au Grand Katanga. Je félicite d'abord les parents qui m'ont donné les meilleurs de leurs enfants parce qu'en matière de recrutement, on ne prend pas n'importe qui. Comme j'ai toujours dit, que l'armée n'est pas un dépotoir. L'armée n'est pas un refuge des rébus de la société. Nous prenons des enfants aptes mentalement et physiquement, les enfants ayant une bonne moralité surtout. De toute façon, ceux qui s'étaient enregistrés, qui ne sont pas au courant de notre position actuelle de regroupement au niveau des Tombangadio, je leur dis de venir rapidement parce que nous leur accordons une petite chance de 3 jours. Ils veulent venir se joindre aux autres qui sont déjà regroupés en attente de leur évacuation. Ceux qui n'avaient pas encore pris les restrictions, qu'ils viennent rapidement s'inscrire au camp Rediaf. Ceux qui sont souples peuvent directement passer au niveau du centre de Tombangadio. Conformément à la vision culminante du président de la République, nous devons former nos jeunes parce qu'une armée sans formation, c'est comme une société sans culture, c'est comme un corps sans âme.
Ituri, l'insécurité continue de frapper malgré une lueur d'espoir. 26 personnes enlevées en janvier par le rebelle ADF dans les localités de Bwanasura et Mamouvé dans les territoires d'Irumu ont été libérées ce lundi après plusieurs semaines de captivité. Mais dans le même territoire, 3 autres civils ont été nouvellement enlevés au village de Maloulour et lançant les inquiétudes. Et pendant ces temps, à Tétouri, dans les territoires voisins des Mambasa, le corps de 5 agriculteurs tués par ce même rebelle ont été découverts il y a 2 jours. Face à cette recrudescence de violence, des activistes de droits de l'homme dénoncent l'absence d'opérations militaires d'envergure, estimant que ces vides opérationnels offrent un terrain favorable à l'activisme des ADF dans la région. Isaac Remoyope nous fait le point.
Depuis janvier, les rebelles des ADF ont intensifié leurs exactions contre les civils dans les territoires d'Irumu et de Mambasa. Le 23 janvier dernier, des dizaines de civils avaient été enlevés dans les localités de Bwanasura et Mamouvé. Selon des sources concordantes, ce camp des otages ont déjà été libérés après le paiement des rations devenus, affirme-t-elle, un nouveau mode de financement de la rébellion. La dernière vague de 26 personnes a été libérée lundi à Mongué avant de regagner leur famille. D'après les mêmes sources, les otages qui ne parviennent pas à payer les rations sont exécutés. 5 corps d'agriculteurs ont été retrouvés le week-end dernier à Tétouri dans les territoires de Mambasa. Par ailleurs, 3 autres civils ont été enlevés le week-end à Maloulou, en territoire d'Irumu. Face à cette situation, l'ONG des défenses des droits de l'homme, CRDH, appelle le gouvernement à instruire les entreprises de télécommunications afin d'identifier les réseaux des transferts d'argent utilisés pour le paiement des rations et décourager ainsi cette pratique. Elle demande également aux forces conjointes de lancer des opérations militaires d'envergure dans la zone. De leur côté, des sources militaires indiquent que des opérations sont en cours pour démanteler les rebelles dans ces entités. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Kasaï oriental, un tournant majeur vient d'être amorcé dans la lutte contre le paludisme. La province intègre désormais un nouveau vaccin antipaludique dans son calendrier vaccinal de routine, une avancée saluée par les autorités sanitaires. La cérémonie officielle de lancement s'est tenue ce lundi sous la présidence du ministre provincial de la Santé, le docteur Daniel Kazadi, en présence de plusieurs cadres du secteur et de leaders d'opinion venus marquer l'événement. Une étape décisive dans la protection des enfants et des populations les plus vulnérables. Les explications d'Esther Ndalafina.
Ce vaccin, administré sous forme de gouttes, cible les enfants âgés de 6 à 24 mois. Il sera délivré en 4 doses respectivement aux âges de 6, 7, 8 et 15 mois. Selon le ministre provincial de la Santé, Dr Daniel Kazadi, cette innovation vise à protéger les enfants contre le paludisme, première cause de mortalité infantile dans la province.
Ça entre dans les calendriers de routine et ça s'ajoute aux autres vaccins que nous donnons systématiquement aux enfants. Il n'y a pas de campagne. D'ailleurs, c'est une des précisions faites ce matin par le niveau national. Ce n'est pas une campagne, c'est vraiment un vaccin qui entre dans les calendriers des routines.
Les chiffres illustrent l'urgence. Déjà à la 6e semaine épidémiologique de l'année en cours, plus de 15 000 cas de paludisme ont été enregistrés chez les enfants avec plusieurs décès. Le ministre a annoncé que la prochaine étape consiste à assurer la disponibilité du vaccin dans toutes les structures sanitaires organisant la vaccination pédiatrique. Esther Dalafina, Mbujumai, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le gouvernement colombien a annoncé ce mardi la reprise des négociations avec le clan del Golfo, le puissant cartel narcotrafiquant qui avait suspendu les pourparlers il y a 2 semaines. Cette relance intervient dans un contexte tendu lors de la visite à la Maison Blanche le 3 février. Le président Gustavo Petro et son homologue américain Donald Trump avaient convenu de mener des opérations conjointes pour traquer et neutraliser Chiquito Malo, le commandant en chef du clan del Golfo. En réaction à cette annonce, le cartel considéré comme le plus influent du pays avait immédiatement interrompu les discussions entamées en septembre au Qatar. Selon un communiqué publié mardi par le bureau de la paix chargé de mener le pourparler, les négociateurs se sont réunis le 9 février à Bogota et estiment désormais que la suspension des discussions est dépassée, ouvrant ainsi la voie à une reprise du dialogue.
L'invité.
Place à notre invité du jour. Le collectif du 16 février appelle à faire de la non-violence la voie prioritaire de toute revendication en République démocratique du Congo. Invité de Radio Okapi, l'un des membres de ces collectifs, l'abbé José Mpundu, insiste sur la nécessité de remettre cette valeur au centre de l'action citoyenne, condition selon lui indispensable à l'enracinement de la démocratie en RDC. Pour ce prélat catholique, il est temps de reprendre la marche initiée il y a plus de 3 décennies en se défaisant des antivaleurs, haine, division, violence et en promouvant l'amour, la fraternité et l'unité, seule voie capable de conduire le pays vers le développement. L'abbé José Mpundu s'entretient à présent avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour monsieur l'abbé José Mpundu.
Bonjour.
34 après, quels sont les acquis de la marche réprimée du 16 février 92?
La première chose, c'est que le 16 février 92, nous avons vaincu notre peur. La peur a changé de camp. La peur a montré son vrai visage. Première chose. Deuxième chose, la marche du 16 février a été l'occasion de remporter une petite victoire du peuple. Le peuple a gagné parce que la Conférence nationale souveraine a réouvert ses portes et les travaux ont repris. Ça, c'est un élément important. La marche du 16 février nous donne comme leçon, unis, nous sommes forts. Divisés, nous sommes faibles. Non seulement unis, nous sommes forts, mais organisés, nous pouvons aller loin. Formés, nous renforçons notre capacité d'agir.
Quelle est l'essence que vous donnez à cette journée mémorable 34 ans après?
34 ans après, c'est que nous ne pouvons pas oublier les martyrs de la démocratie. Ce qui est important, c'est que 34 ans après, nous devrions reprendre la marche. Non pas la marche physique, celle qui consiste à se mettre dans la rue, comme on s'est mis dans la rue le 16 février 92. Non, il s'agit ici d'une marche qui signifie que nous partons d'un système bâti sur le primat de la voix vers un système bâti sur le primat de l'être. Et cette marche-là, elle est d'abord intérieure, elle est spirituelle, elle est psychologique, elle est culturelle et elle se fait de manière individuelle d'abord et de manière collective ensuite.
Quels sont alors les acquis et les défis à relever?
Les défis à relever, c'est le défi de la souveraineté. C'est tout. Nous devons relever le défi de la souveraineté. Parce que nous ne sommes pas encore un État souverain, une nation souveraine. C'est tout.
Pourquoi vous dites que c'est l'amour qui donne les derniers mots?
Oui, l'amour a le dernier mot. La haine, la division, la guerre n'auront jamais le dernier mot. Parce que Jésus ressuscité pour nous chrétiens, et cette marche a été la marche des chrétiens, eh bien Jésus ressuscité, c'est le triomphe de l'amour. Ceux qui ont tué Jésus, ils ont cru tuer la vérité, ils ont cru tuer l'amour, ils ont cru tuer la fraternité. Mais en ressuscitant son fils Jésus, Dieu nous a montré que l'amour aura le dernier mot.
À ce 34e anniversaire de la journée des martyrs de la démocratie, quel est le message que vous pouvez donner aux politiques et puis à tous les Congolais qui vous suivent sur les médias?
Mettons-nous ensemble, c'est tout. Mettons-nous ensemble et réfléchissons sur les 6 questions suivantes. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où sommes-nous? Où allons-nous? Où voulons-nous aller et comment y arriver? Voilà les 6 questions que chaque Congolais, du dirigeant au dernier des Congolais, nous devons nous poser. Et nous les poser d'abord individuellement, personnellement, et nous les poser collectivement. Et les réponses à ces questions ouvriront, n'est-ce pas, un espace pour construire ensemble un autre Congo, un nouveau Congo.
Quel est le rôle de cette journée en RDC, pays aujourd'hui confronté à l'insécurité et à plusieurs crises?
Cette journée nous interpelle tous. Cette journée interpelle les dirigeants, interpelle le peuple. Si nous nous mettons ensemble, nous pouvons aller loin. Mais si nous sommes divisés, éparpillés, eh bien, nous n'irons jamais loin. Et ceux qui veulent que nous ne nous développions pas, eh bien, font en sorte que nous soyons divisés. Et si nous ne prenons pas conscience que la division nous rend faibles et l'union, la réconciliation nous rend forts, là, nous sommes à côté.
Qu'est-ce que la jeunesse peut retenir de la journée du 16 février 1992?
La jeunesse doit prendre son courage en main pour voir l'avenir, un avenir meilleur, et s'engager pour cet avenir, et non pas se laisser manipuler et instrumentaliser pour la gloire d'un tel ou d'un tel.
Monsieur l'abbé José Mpundu, nous vous disons merci.
Merci bien.
Vous venez d'entendre l'abbé José Mpundu, invité de Radio Okapi, une voix qui rappelle l'urgence de reconstruire l'unité nationale au micro de Blaise Ndongala Mayanda. Merci d'avoir été avec nous pour ce journal du soir et merci de votre fidélité. Radio Okapi, la radio de la paix, reste à vos côtés avec une information fiable, claire et vérifiée 24 heures sur 24. Prolongez l'expérience, retrouvez nos contenus exclusifs sur toutes nos plateformes et réécouter ce journal en podcast sur notre site www.radiocapi.net. On se retrouve très vite. Bonne soirée à tous.